question sur l'expo. Déjà, comment est-ce qu'est née l'idée un petit peu de cette exposition sur les jeux vidéo, et puis quel est l'objectif véritablement?
L'expo elle est née parce que ProLVCA, donc la Fondation Suisse pour la Culture, avait décidé de traiter ou de questionner le thème des jeux vidéo. Et ils ont pour ça monté un programme. Et dans ce programme qui s'appelle Game Culture, il y avait donc deux expositions, des conférences et des choses comme ça. Et une de ces expositions a été montée à la Maison d'Ailleurs, et c'est ça Playtime en fait. Donc c'est ProLVCA qui est venu vers la Maison d'Ailleurs, leur a demandé si ça les intéressait, si ça nous intéressait de monter cette exposition. Il y a eu un appel à projet, un projet a été déposé, et puis le projet a été accepté, et c'est ce qui a lancé l'exposition. Et puis le but est du programme et de l'expo, parce que les choses se recoupent, c'est d'inspecter le monde des jeux vidéo, mais à travers en fait des perspectives originales. C'est-à-dire non pas uniquement le jeu vidéo comme forme du ludique aujourd'hui, mais quelles sont les ramifications esthétiques, culturelles, symboliques et autres du jeu vidéo. Donc Playtime, en fait, c'est une exposition qui est divisée en 5 parties, et chacune de ces parties, alors d'une part, s'associe à un thème et puis pose des questions au thème. Alors par exemple, dans une partie comme la partie 3 qui s'appelle Bodies and Minds, ça inspecte la relation du corps et de l'esprit du joueur dans le jeu vidéo. Et puis, ça évoque, ça pose plusieurs questions. Par exemple, comment est-ce qu'on forme notre avatar? Et puis, comment notre corps bouge lorsqu'il joue au jeu vidéo? Finalement, est-ce qu'on peut être... Est-ce qu'un avatar, c'est pas une superposition de deux images? C'est-à-dire la mienne, celle que j'ai de moi-même, et puis celle que j'ai cristallisée à l'écran. Voilà, ces gens de toutes les pièces de l'exposition viennent poser en fait des questions à la thématique de l'expo, et puis ces questions relèvent de plusieurs domaines, justement esthétiques, culturels, politiques, etc.
Quel est le lien avec la science-fiction au global, puisqu'on est au musée de la science-fiction?
Le lien, il est au niveau de la thématique de l'inspection de l'imaginaire des technologies. Voilà, c'est-à-dire que en fait, la science-fiction dans un sens très large, c'est un imaginaire qui est un imaginaire de la technologie ou des sciences, qui a ses grandes tendances, les sous-genres du genre lui-même. Et puis le jeu vidéo, finalement, c'est aussi, d'une certaine manière, c'est une technologie, c'est un ensemble de technologies qui produit un imaginaire. Et donc, en fait, la Maison d'Ailleurs qui essaie d'inspecter les imaginaires qui dérivent de la science, de la technologie et d'autres choses encore, dans le jeu vidéo, on est vraiment dans quelque chose de très proche de ce qu'on fait habituellement. D'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, on est beaucoup plus proche de la science-fiction avec une expo sur les jeux vidéo qu'avec une expo plus traditionnelle. Parce que le jeu vidéo, c'est par essence une technologie qui produit un imaginaire. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de refléter cet imaginaire-là en le mettant à distance à travers les différentes pièces de l'expo.
Une autre question sur la science-fiction, puis on reviendra sur l'expo. Comment est-ce que l'ASF a diffusé dans les jeux vidéo? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'univers et de science-fiction ou même de fantasy, quoi.
Oui, parce que en fait, le jeu vidéo, comme la science-fiction ou la fantasy, crée des espaces qui sont souvent des espaces imaginaires, en fait. Et donc, finalement, une affinité, une certaine connivence se crée entre le jeu vidéo et la science-fiction ou la fantasy, puisque justement, les deux créent des espaces spectaculaires, différents, divertissants, ludiques, étonnants, sombres, etc. Et lorsqu'on joue à un jeu vidéo, finalement, on apprécie l'expérience du jeu qui n'est pas dans un espace forcément identique au mien. Et donc, je pense que la science-fiction et la fantasy, naturellement, ont été portées aux jeux vidéo, comme la science-fiction et la fantasy ont naturellement été portées au cinéma. Puisqu'il y a cette idée de partir dans un espace autre, en fait.
Comment vous l'avez conçu, cette exposition? Il y a des pièces qui viennent vraiment du monde entier. Comment vous avez bossé?
En fait, on a bossé avec un commissaire d'exposition qui s'appelle José Luis de Vicente, et qui, en fait, est un spécialiste dans l'art média, donc dans tout ce qui touche aux technologies du vidéoludique. Et donc, lui, en fait, a proposé passablement de pièces différentes, un discours général sur l'exposition, etc. Et puis moi, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec lui, d'une part pour affiner le discours, pour l'orienter un peu différemment quand j'étais pas d'accord, ou pour le renforcer lorsque j'étais d'accord, puis en même temps pour sélectionner les pièces qui me paraissaient les plus intéressantes, les plus originales à montrer aussi au public, puisque cette expo a un avantage, c'est que c'est la première expo de ce type-là au monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des expos sur les jeux vidéo, Game Story à Paris, qui était une expo de rétro gaming, par exemple. Mais une expo qui coupe complètement la sphère moralisatrice, tout en coupant complètement la sphère rétro gaming, et en essayant de présenter les œuvres les plus contemporaines, réparties en 5 grandes catégories, ça c'est quelque chose qui est unique au monde. Donc voilà, on a travaillé un peu à deux, de manière dynamique, où moi je proposais des choses, lui les acceptait ou pas, et lui me proposait des choses, et puis on a monté l'expo, disons, selon cette marche à suivre là.
Il y a beaucoup de pièces, et en même temps il y a un fort impact, enfin tout le moins une forte dimension ludique, quoi. On peut jouer aussi.
Oui, parce que le jeu vidéo c'est d'abord un jeu. Mais il s'avère que dans un musée, le jeu vidéo, il est mis un peu à distance. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on joue à un jeu, on n'est pas seulement en train de jouer au jeu, enfin du moins, on peut très bien ne faire que jouer au jeu, mais l'idée, c'est de dire qu'on est pris dans un discours plus général, qui est un discours muséographique. Et donc, à la fois, on peut que jouer au jeu, mais on peut aussi essayer de, disons, d'orienter notre expérience du joueur dans le discours général. Par exemple, on peut jouer à GTA 4 dans l'exposition, ou à Pac-Man, mais de Pac-Man à GTA 4, on a eu beaucoup d'inventions, d'innovations dans le traitement de l'espace dans le jeu vidéo, et donc la salle où vous avez GTA 4 et où vous avez Pac-Man, c'est une salle qui possède un discours sur le jeu vidéo et sur l'espace dans le jeu vidéo, et donc on peut jouer à GTA 4 comme si je l'avais chez moi, mais je peux aussi enchaîner de Pac-Man à GTA 4 en passant par Koe Kaiko et SimCity 2000 pour voir en fait comment l'espace est traité. Donc c'est ludique, puis en même temps, cette dimension ludique, elle est, on va dire, encapsulée, elle est encastrée dans un discours muséographique plus général qui permet de pouvoir diversifier les expériences de jeu.
D'accord. Quelles ont été un peu les choses peut-être les plus étonnantes que tu as découvert avec cette expo ?
Je pense que ce qui était le plus étonnant pour moi, c'était la diversité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une expo où vous avez des sculptures, des photographies, des films, des jeux, des projets, des installations interactives. Donc c'est peut-être de voir, d'une part, la diversité du monde du jeu vidéo. C'est-à-dire, dans le stéréotype, tu vois, on réduit toujours le jeu vidéo à, bon, voilà, c'est l'ado chez lui qui joue, quoi. Et en fait, ce qui m'intéressait ou ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir à quel point c'était déjà un domaine qui touchait n'importe quelle sphère de l'art aujourd'hui, justement de la photo au film en passant par les installations et autres projets étonnants, et qui pose énormément de questions. C'est, en fait, on ne pose pas que la question du divertissement. Le jeu vidéo, ce n'est pas qu'une question du divertissement ou de l'addiction. C'est aussi des questions de l'identité humaine, avec la question de l'avatar, c'est l'identité du rapport à la réalité, avec tout ce qui est les jeux sérieux ou des choses comme ça. C'est la question des espaces, avec notre propre rapport à l'espace, disons, de celui dans lequel on vit. C'est la question de la règle, avec la question de la vie humaine, n'est-elle pas aussi un espèce de jeu où on doit maîtriser ou pas des règles. Et selon la maîtrise de ces règles, on va avancer au niveau suivant, et si on ne les maîtrise pas, on va toujours rester au même niveau. Enfin, c'est une expo qui, en fait, parle du jeu, mais comme souvent à la maison d'ailleurs, l'idée c'est de montrer qu'elle parle d'abord de notre propre interaction avec le monde environnement, avec nos semblables et avec nous-mêmes.
Parce que là, on est, enfin, par exemple, face à des avatars, hein, avec les gens physiquement et leur avatar dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que ce genre de panneau, par exemple, nous enseigne ?
Ben, ils enseignent déjà deux choses. C'est qu'on ne choisit pas notre avatar n'importe comment, puisque l'avatar peut être soit une forme fantasmée de qui on est, soit une expérience de quelqu'un qu'on ne sera jamais. Si vous êtes un homme et que vous n'avez pas vraiment pour envie de changer de sexe, le fait de jouer un avatar féminin est une expérience, à condition que vous essayez vraiment de le jouer, une expérience, disons, où vous jouez quelqu'un que vous ne pouvez pas être, quoi. Et donc vous pouvez essayer de jouer une femme avec vos propres représentations. Donc ces images montrent que l'avatar, c'est à la fois ce qu'on pourrait être, enfin pardon, ce qu'on aimerait être, mais qu'on ne sera jamais, ou ce qu'on ne sera jamais, puis qu'on a envie d'essayer d'être. Mais en même temps, ça enseigne une des propriétés principales de la fiction au sens général, et pas forcément la fiction au sens vidéoludique, SF ou autre, c'est qu'en fait, la fiction, c'est une manière de vivre une autre vie, dans un autre monde, en fait. Quand on lit un roman, quel qu'il soit, on vit la vie du personnage principal, du moins durant le temps de la lecture, qui à la fois n'est pas nous, et puis à la fois qui vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et on va quand même vivre sa vie à lui, idem pour les films. Et donc le jeu vidéo reprend ses sources dans la fiction, où vous vivez la vie de quelqu'un d'autre que vous-même dans un monde qui n'est pas le vôtre, avec peut-être cette spécificité qui est propre aux jeux vidéo, c'est que contrairement au livre et au film, votre avatar, vous pouvez choisir où il va. Certes, le choix n'est pas infini, mais il est de façon plus grande que dans un livre ou dans un film, puisque dans un livre ou dans un film, c'est pas vous qui menez la narration. Alors que dans le jeu vidéo, finalement, gauche-droite, c'est un peu votre choix. Et donc, vous avez peut-être vraiment ce sentiment que l'avatar, vous vivez vraiment sa vie, quoi. Même s'il est quand même conditionné par les règles du jeu et puis par les programmeurs. Et puis, la dernière chose que nous enseigne de telle photographie, comme quoi vous voyez qu'à partir de simples photos, on peut avoir plusieurs choses différentes, c'est peut-être une question plus générale, c'est quand on pense au temps passé à investir un avatar, à le, on va dire, à attribuer des caractéristiques, des propriétés, à jouer avec lui dans des univers, etc. Finalement, la question qui peut se poser au bout d'un moment, c'est est-ce que cet avatar ne représente pas une partie de mon identité ? Avec cette question un peu provocatrice, mais qui est assez, pour moi, marrante, c'est devrait-on un jour, ou pourrait-on imaginer, alors avis aux amateurs de science-fiction et aux écrivains de science-fiction, pourrait-on un jour imaginer que sur nos cartes d'identité, on ait à la fois nos noms, mais toutes les identités virtuelles qu'on endosse à travers Facebook, nos avatars dans différents jeux, puisque dans chacune de ces modes, enfin dans chacun de ces modes fictionnels, on injecte un petit peu de ce qu'on aimerait être.
Est-ce que cette interrogation sur le réel, finalement, c'est quasiment un fantasme de science-fiction qui devient réalité, quoi ?
Oui, alors c'est en tout cas un fantasme. Je ne sais pas si c'est un fantasme qui est que de science-fiction. On a toujours voulu endosser on n'a qu'à penser aux acteurs grecs qui mettaient un masque, ça veut dire d'être quelqu'un d'autre. La science-fiction a peut-être mis une certaine forme de rationalité à ça, hein, puisqu'elle a imaginé qu'on pouvait être quelqu'un d'autre ou rencontrer d'autres personnes à travers des systèmes technologiques plus ou moins réalistes par ailleurs. Hein. Je pense que c'est un fantasme humain de sortir de soi, d'être quelqu'un d'autre, d'expérimenter quelque chose d'autre. Et le but de l'expo, c'est de représenter le fait que le jeu vidéo use de telles stratégies à des fins, en fait, que la réelle spécificité, c'est le fait que vous pouvez soudainement agir dans vos espaces fictionnels. En général, les espaces fictionnels, on n'agit pas dedans. Mais là, soudainement, on peut agir, on peut faire des choses dans cet espace-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, finalement. Hein, comment faire pour agir ? Donc, fantasme de science-fiction, oui, mais je dirais peut-être plutôt fantasme humain de se projeter dans quelqu'un d'autre. Et le jeu vidéo permet, en plus que de se projeter, de pouvoir activer cette marionnette, en fait, virtuelle qu'est l'avatar.
Ouais. Et est-ce que ça n'interroge pas, quelque part, aussi le futur de l'humanité dans...
Alors oui, après il y a cette idée de prospection possible, c'est-à-dire on peut imaginer que un jour on aura tous plusieurs avatars et qui donc seront tous des représentations de certaines parties de nous-mêmes. Mais il faut toujours faire un peu attention avec la prospection, et c'est pour ça que je parlais plutôt des auteurs de science-fiction pour avoir des nouvelles idées pour les romans, puisqu'à ma connaissance, peu de romans jusqu'à aujourd'hui sont écrits sur le mode du jeu vidéo ou exploitent le mode du jeu vidéo. C'est en fait que quand on prend un Second Life qu'on a longtemps décrié comme étant un jeu terrible parce que un jeu qui vous faisait vivre une deuxième vie et qui allait supplanter en fait votre vie réelle, aujourd'hui on ne joue plus à Second Life. Donc est-ce que vraiment un jour les avatars seront des formes, on pourra avoir plusieurs avatars dans les jeux vidéo qui nous représenteront, disons, de manière relativement longue avec le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de garnir notre identité d'identité virtuelle. Et ça, c'est important. Ça fait penser aux questions d'identité plurielle aujourd'hui, c'est-à-dire où finalement je peux sans problème être une femme dans un jeu vidéo, être un guerrier barbare dans un autre, et puis me construire une façade d'arty sur Facebook, et puis d'être ultra pro dans LinkedIn, quoi. Et donc il y a cette espèce de choix de pouvoir modeler mon identité à travers le digital qui me semble être, lui, alors effectivement, une question d'avenir.
Et en même temps, dans l'influence des jeux vidéo dans le monde actuel, je pense par exemple simplement aux manettes qui donnent peut-être parfois des formes de mains ou qui ont des formes qui se ressemblent. Est-ce que là, il n'y a pas une évolution de l'humanité avec un jeu vidéo qui est de plus en plus présent, quoi ?
Oui, c'est difficile à dire. Le jeu vidéo le jeu vidéo est super présent, ça c'est un fait, parce que vous avez des iPhones et vous jouez sur vos iPhones, vous avez des iPads et vous jouez sur vos iPads. Donc tout ce qu'on appelle le casual gaming, c'est dans le fait de jouer occasionnellement comme ça, entre deux arrêts de bus ou que sais-je. Le jeu vidéo est pour moi d'abord Il est présent pour deux raisons. Déjà parce que justement, il diversifie les médias. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur une console de jeu, sur votre ordinateur, sur votre iPod et autres, enfin sur votre iPhone et puis sur votre iPad et sur d'autres encore médias. Mais d'autre part, il est aussi omniprésent parce que la technologie utilisée dans les jeux vidéo flirte de plus en plus avec le réel. On a les jeux urbains, donc ces jeux qui se montent dans les cités. On a l'influence du monde réel dans les jeux vidéo avec ce qu'on appelle les serious games, donc tous les jeux sérieux où finalement vous contribuez à la recherche scientifique, vous contribuez à des économies réelles. Par exemple, pour le cas des gold farmers, ces ouvriers chinois que vous payez indirectement pour qu'ils puissent vous obtenir des niveaux plus élevés à World of Warcraft, par exemple. Et donc là, l'omniprésence du jeu vidéo se fait de manière assez insidieuse, j'ai envie de dire, dans le sens où on ne la voit pas. Par contre, elle est clairement présente dans énormément de sphères. On commence à utiliser les algorithmes utilisés pour résoudre les problèmes dans les jeux vidéo à des situations réelles. Donc, c'est plutôt une sorte d'interférence qui se fait, ou un mélange qui se fait, qui rend le jeu vidéo de plus en plus présent. Après, les stratégies marketing font que, ils sont de plus en plus là. La Wii permettait à n'importe quel âge de jouer, puisqu'on était finalement en train de bouger avec nos mains et on était moins dans quelque chose de l'ordre d'une maîtrise du nombre de boutons nécessaires au bon fonctionnement du jeu, mais on avait une interface simplifiée qui utilisait le mouvement, idem pour la Kinect, etc.
Ouais. Et qui c'est qui vient? Bon, on parle justement de stratégie marketing et d'âge, mais les premiers jeux, c'est les années 80, ça fait 30 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent depuis 30 ans à des jeux vidéo? Dans le public que vous recevez là à la maison d'ailleurs, il y a tous les âges ou c'est plutôt des jeunes?
Alors, c'est un peu de tous les âges. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, si tu veux, on a donc des enfants qui sont souvent accompagnés de leurs parents, donc des familles. On a des ados, chose étonnante dans un musée, puisque aujourd'hui, tous les musées du monde se posent la question de comment attirer les ados sans les obliger à venir. Là, on a des ados qui viennent tout seuls, ou en groupe d'ados pour jouer, quoi. On a des jeunes adultes, ou des adultes, disons, d'une trentaine d'années, qui ont joué à ces questions, aux jeux vidéo il y a 30 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, puis qui veulent retrouver des choses ou voir ce qui a avancé. Et puis, il y a énormément de curieux qui ne se connaissent rien aux jeux vidéo, qui soient adultes, qui soient un peu plus âgés, et puis qui viennent découvrir ce monde étonnant, ce monde où il se passe des choses qu'ils ne connaissent pas très bien. J'ai un visiteur dernièrement qui me disait « Je déteste les jeux vidéo, mais c'est un phénomène qui est tellement important que je ne peux pas, en fait, ne pas venir voir l'exposition parce que j'ai besoin de savoir et de mieux comprendre ce monde qui est le nôtre, en fait. » Donc, il y a vraiment, peut-être, c'est pour moi, en tout cas, la première expo que je vois depuis pas mal d'années où tout public y trouve son compte, finalement.
Ça fait 30 ans, entre guillemets. Quelle est la place aujourd'hui? Enfin, est-ce que l'humanité a changé avec le jeu vidéo? Qu'est-ce que ça a apporté?
C'est difficile à dire ce que ça a apporté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a apporté un rapport au virtuel. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui a le plus transformé, ce qui était le plus transformé, c'est notre rapport à ce monde digital qui est devenu omniprésent. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous achetez un iPhone, vous pouvez être quasiment sûr que n'importe qui, une des premières choses qu'il va faire, c'est de mettre des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ça a le plus changé, c'est de ne pas séparer l'après-midi, enfin, le dimanche après-midi, jeu en famille, qui est un moment identifié dans le temps, assez circonscrit, comme ça, où vous alliez, vous jouiez, puis le lendemain, c'était le boulot et on jouait plus. Là, maintenant, avec le casual gaming, vous pouvez jouer n'importe quand. Et donc, peut-être que ce que je verrais l'aspect le plus novateur des jeux vidéo, c'est un, le fait qu'il soit partout, et puis le fait qu'il ait déjà transformé notre vie. C'est pas forcément futuriste, le jeu vidéo. Ça a déjà transformé. Vous allez dans un bus ou dans un train, vous voyez les gens jouer. Il y a 30 ans ou 40 ans, les gens se parlaient ou lisaient le journal ou que sais-je. Et là, aujourd'hui, ils jouent. C'est pas mieux ou moins bien, mais c'est la preuve que le jeu vidéo a déjà transformé, en fait, le monde qui est le nôtre.
Est-ce que tu es joueur, toi-même?
Non, j'ai été joueur quand j'étais ado. Puis après, quand j'ai commencé mes études, je me suis rendu compte que c'était plus possible, que j'arrivais pas à tout faire. Alors, de temps en temps, je me fais un petit coup nostalgie où je rejoue pendant 2 heures. Puis après, je me dis, bon, finalement, c'était sympa de jouer 2 heures, mais voilà, il faut que je fasse d'autres choses. Donc, je suis pas un joueur, mais j'ai rien contre le jeu. C'est une question plutôt de temps. J'ai été joueur, j'ai passé pas mal d'heures à jouer plutôt aux jeux de ce qu'on appelle les RTS, hein, les jeux de stratégie en temps réel. qui permettait de pouvoir sauver à n'importe quel moment, puis où t'es pas pris dans une intrigue trop forte, donc c'était pratique quand tu fais des études. Puis après, ben après avec mes formations, ma vie, ça pouvait plus être possible. J'avais plus le temps, ça me correspondait moins. Et puis maintenant, ben c'est vrai que voilà, j'ai toujours aussi peu de temps, donc je joue toujours aussi peu. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de rapport problématique ou conflictuel au jeu. Pour moi, c'est quelque chose que tu fais quand tu as le temps et puis quand tu as envie de te vider la tête. Mais aussi, maintenant, peut-être qu'avec l'expo, je me suis rendu compte que c'est aussi quelque chose dans lequel il y a des phénomènes sociaux et sociétaux importants qui se créent, qui se cristallisent, qui émergent. Et puis ça, je trouve intéressant.